Moi, c'est une forme de question. Je voudrais d'abord dire que nous avons une grande bénédiction, une grande grâce de pouvoir entendre ces exposés-là, que ça nous enrichit beaucoup et vont exprimer notre reconnaissance et à Dieu et aux personnes qui assument ce service. Et deuxièmement, je voudrais ma petite contribution sur le sujet. Je voudrais dire que en ce qui concerne le passage du « nous » ou « je » dans le symbole, ça se voit dans ce que j'ai vu, dans les recueils que j'ai, quand on est passé de la version Nicée à la version Constantinople.
Ah oui.
Alors ça, c'est assez intéressant. Et je pense que c'est lié, à ma connaissance, d'après ce que j'ai étudié, c'est lié aussi à une avancée de la conscience, de la personne, de la place de la personne créée dans l'Église. Et donc ça, je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est que dans la mesure où l'Église a approfondi, a commencé à développer cette conscience que la personne est vraiment catholique, les pères ont dit, on va laisser le « nous » et on va prendre le « je ». Ça a été un choix du deuxième concile œcuménique. Deuxièmement, je voulais dire que, oui, en ce qui concerne la place du credo dans la prière, je me rappelle que Père Sophronie nous a enseigné de l'avoir dans l'office du chapelet.
Aussi, oui, oui.
Donc c'est assez intéressant, c'est-à-dire que c'est nécessaire. Et ensuite, il y a une place importante de la profession de la foi dans le sacrement de la confession. C'est l'occasion de redire à tous mes collègues que quand on a le temps, quand on est dans le sacrement de la confession, le fait de demander à la personne qui se confesse de dire la foi est quelque chose d'extrêmement important. C'est un renouvellement du baptême et ça nous renseigne sur le sens du mot confession, qui veut dire à la fois confesser la foi et reconnaître ses péchés. Ceci est donc extrêmement important. Je voulais dire également, je ne sais pas si c'est utile, mais ça peut servir, que parmi les symboles de foi qui ont été cités, je n'ai pas entendu, mais j'entends pas tout, qu'il y a aussi le symbole de foi qui est dans la liturgie, c'est-à-dire Fils unique et Verbe de Dieu, et qui est un... oui, mais en fait, qui est une espèce de credo intégré vraiment dans le... Et puis, une dernière remarque, alors une remarque un peu personnelle, qui est liée à ma propre réflexion, c'est la question de la version que nous avons, alors en français actuellement, du symbole de foi, et qui est vraiment, insuffisante. Je dirais par exemple, pour ne prendre qu'un exemple, quand on parle de la deuxième venue du Christ, dans le texte grec, il s'agit d'un présent. Et on a traduit tout le temps, on continue à traduire par un futur, ce qui introduit, je pense, une pensée inexacte. Le texte, c'est « Et de nouveau, avec gloire, il vient ». Donc c'est un seul exemple sur l'ensemble du texte qui demanderait, et je pense que c'est le rôle aussi qui nous appartient, une vraie révision du texte en fonction de l'original pour retrouver toute la force de ce texte. Excusez-moi.
Oui, non, mais je voudrais dire que, enfin, ce que je l'ai déjà dit tout à l'heure, je crois qu'il y a un parallèle entre les formules purement baptismales qui étaient simples, comme le symbole des apôtres, où là c'est vraiment un résumé, très résumé, et les formules dogmatiques des conciles, qui concernent l'Église universelle. C'est nous. Initié à Constantinople, c'est pisteomen, credimos, nous. Ce n'était pas immédiatement destiné au baptême, parce que je vois en Occident, on a quand même adopté Nicée et Constantinople dans la messe, mais on avait quand même l'ancien symbole baptismal qui est utilisé pour les baptêmes, donc c'est un parallèle. Pour le baptême, c'était très 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 résumé. Je voulais dire ça, puis je rebondis sur ce qu'a dit André tout à l'heure. Tout n'est pas dans le symbole de foi, c'est une synthèse. Alors, on ne peut pas le changer tel qu'il est, mais rien n'empêche qu'un concile futur puisse l'accroître, si vous voulez. Vous voyez, tout n'est pas dit dedans, évidemment.
Oui, merci, Père Noël.
On pourrait le compléter.
Oui, merci d'insister. Simplement, moi, je pense qu'on continue à le compléter. Par exemple, le dimanche de Saint-Gloire-Palamas, le deuxième dimanche du carême, c'est un peu le dernier développement. Simplement, c'est une autre forme. Mais il ne s'agit pas de réécrire un symbole de foi qui contiendrait tout. À ce moment-là, on réécrit, mais pas un symbole de foi, on réécrit autre chose. C'est ça sur quoi je veux insister. Alors, j'ai deux réactions. Donc, Père Marc-Antoine, merci beaucoup. Parce que l'hymne Fils unique J'avais tout simplement oublié. Or, ça vaut la peine, si vous permettez, de s'y arrêter quelques minutes. Donc, il a été composé, on le sait, par Justinien, qui avait une grande conscience théologique, d'abord, et un grand sens aussi de l'unité de l'Empire. Donc, l'hymne Fils Unique a une formulation... on l'a un petit peu soupçonné de monophysisme, mais en fait, si on regarde les formules, il est parfaitement orthodoxe. Et c'est pour cela, je pense, que nous continuons à le chanter. Et c'est déjà une première confession de foi. C'était par cette confession de foi, d'ailleurs, que s'ouvrait la liturgie de Saint-Jacques. Et depuis, il a été intégré, en quelque sorte, dans ce qu'on appelle, c'est un peu technique, le début de la divine liturgie. C'est-à-dire, il n'y a pas encore eu la petite entrée, il n'y a pas encore eu l'entrée des célébrants, qui est en fait notre entrée, d'après ce que dit Schneemann. Là, c'est un autre sujet. Mais en fait, la liturgie de Saint-Jacques s'ouvrait avec cette confession de foi que certains appellent un petit credo. Donc, je remercie beaucoup le Père Marc-Antoine d'avoir rappelé cela, parce que c'est important.
Aussi, j'ai noté quelques remarques. J'ai noté que, tout d'abord, que le symbole de la foi a des origines bibliques. Parce que l'Écriture nomme le Christ, par exemple, Jésus est le Seigneur, ou Jésus est le Fils de Dieu. Il y a des épîtres, il y a des évangiles, et donc et puis, il y a des endroits où il y a des textes avec du contenu trinitaire. Donc, les origines de tout credo est biblique, bien sûr. Et puis, j'ai noté aussi que le credo parle, par exemple, Saint Ignace, dans son épître au Tralien, je pense, parle du credo du baptême, mais aussi du credo de la liturgie. Et ça se passe au début du IIe siècle. Et pour le credo question et réponse, je pense que c'est le saint Justin, le martyr, qui parle le premier vers 150.
Oui, je ne suis pas d'accord.
Oui. Ensuite, dans son ouvrage Hippolyte de Rome, par exemple, dans son ouvrage Tradition apostolique, environ 200, il insiste sur la christologie, surtout. Bon, puis donc, il parle aussi, le credo il est lié à la liturgie aussi, dès le début du IIe siècle, d'après ma connaissance. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore? Cyril de Jérusalem, donc... c'est beaucoup plus tard qui donc parle du credo en question et réponse.
Je ne vois pas ce que vous voulez dire.
Je veux dire que c'est Justin le martyr qui a parlé tout d'abord vers 150 du credo donc question et réponse.
Je vous répondrai.
Merci.
Mais non, vas-y, je répondrai.
C'est juste. Mon père, merci beaucoup. Je réagis d'abord positivement à votre première remarque. Les sources bibliques du symbole de la foi, je suis désolé, je ne connais pas l'ensemble de votre rencontre aujourd'hui, c'est-à-dire qui fait quoi. Je pense que vous avez encore des travaux cet après-midi. Mais une attention sous la forme d'un exposé entier, pas par moi, parce que je ne suis pas compétent, mais plutôt par un bibliste. Je prends un exemple, qui est ressuscité des morts selon les Écritures. Et ce selon les Écritures, je crois que c'est quelque part dans Saint Paul, dans les épîtres pastorales. Donc, il existe, je ne les connais pas bien, des éditions critiques du symbole de la foi qui donnent toutes les références, et cela gagnerait beaucoup, je ne sais pas si vous l'avez prévu dans votre journée, mais on aurait tous grand intérêt, moi le premier, à regarder, à montrer à quel point notre symbole de la foi est scripturaire. Donc, merci beaucoup. Alors, je ne prétends pas, à propos des questions et réponses, et à propos de Saint-Justin, je ne prétends pas que la tradition apostolique que j'ai citée soit la première mention d'un symbole de la foi interrogatif. Saint Cyrille de Jérusalem, je faudrait retrouver le passage, je ne vois pas qu'il y ait d'interrogation, mais peut-être. Bon. Par contre, Saint Justin, c'est à dessein que je ne l'ai pas mentionné. Bon, peut-être j'aurais pu le faire, mais enfin, mon objectif n'était pas, là il faut inviter un patrologue, les symboles de la foi à travers les pères, ça aurait demandé trop de développement. Mais enfin, merci parce que ça vos remarques replacent dans un contexte plus large, et j'en suis conscient, mon exposé était peut-être trop étroit. Donc merci. Mais alors pour Saint-Justin, que je connais un petit peu mieux que les autres, c'est comme ça, je ne vois pas... Enfin, il y a une allusion à la foi, c'est-à-dire ne peuvent s'approcher... Je traduis en termes modernes, c'est dans la première apologie, chapitre 66, je crois. Ceux qui adhèrent à ce que nous croyons peuvent s'approcher des saints mystères. Et donc, il y a trois conditions pour communier. Il y a être baptisé, croire, donc adhérer, c'est-à-dire il y a un élément de catéchèse, effectivement, mais qui est très, très ténu. Et il y a trop peu d'allusions chez saint Justin pour qu'on puisse vraiment savoir quel était son symbole de foi. On n'a pas de texte. Et par contre, et alors la troisième chose, vivre selon les commandements. Donc c'est pour cela que je ne me suis pas arrêté sur Saint-Justin. On aurait pu le faire. Comment ? Contenu trinitaire, vous avez parfaitement raison, merci. Mais c'est dans la prière eucharistique. Hein, le président, celui qui préside, rend grâce à Dieu le Père et avec son Fils et l'Esprit Saint. Et on sait que la prière est adressée au Père. Ce qui est intéressant, parce que la plupart de nos anaphores eucharistiques sont adressés au Père. Mais c'est un autre sujet. Merci.
Oui, merci. Alors, origine biblique, oui, bien sûr. Tout est d'origine biblique dans le christianisme. Mais attention, ce n'est pas absolu. Parce qu'il y a des passages, beaucoup de passages de la Bible peuvent être interprétés différemment. Je vous cite un cas. Il y a eu une grande, grande controverse avec les Ariens. Parce qu'ils utilisaient ce passage de Saint Jean où le Christ dit « Le Père est plus grand que moi ». Ah, ils disaient « Vous voyez, on a raison ». Mais Saint Athanase, il fait un beau commentaire. Saint Athanase, il dit « Le Christ dit ça parce que son Père est la source ». Les Ariens, ils disaient « Vous voyez, le Fils, il est en dessous ». Donc, biblique, oui, mais à un moment donné, il a fallu prendre des termes non bibliques pour dire « Voilà ce que nous croyons ». N'oubliez pas que le mot « Trinité » n'est pas dans la Bible. C'est pour ça que les témoins de Jéhovah disent « La Trinité n'existe pas ». À un moment donné, on est obligé de préciser. Bon, juste une petite remarque. L'autre concernant le dialogue avant le baptême. André a bien fait d'en parler. Ça existait aussi en Occident. Par exemple, on faisait la reditio symboli à Rome, samedi saint. Ensuite, les catéchumènes étaient baptisés par l'évêque de Rome, par le pape. Et juste avant de plonger dans la piscine, ils formulaient trois questions qui étaient un résumé du résumé. Vous voyez,
oui, c'est ça.
Est-ce que tu crois dans le Père? Est-ce que tu crois dans le Fils qui a fait ceci? À ce moment-là, la personne disait oui. Et à ce moment-là, on l'immergeait. Et je pense que dans le baptême de rite byzantin, il y a quelque chose qui ressemble. Parce qu'on a d'abord la reditio symbolique, puis après... Ça a l'air d'être un peu redondant, mais le prêtre, il redit, est-ce que tu crois vraiment dans le Père? Est-ce que... ben, c'est un souvenir, je pense, de l'époque
oui,
antique.
Tout à fait. Oui.
Voilà.
Merci.
Merci. D'autres questions?
Ce n'est pas une question
en parler. Je n'entends pas.
Approchez-vous.
Ce n'est pas vraiment une question. J'ai découvert il y a deux jours, je ne sais pas si vous en avez connaissance, paraît-il qu'il y a une version œcuménique du symbole de l'Église conformitaire.
C'est
sans
crier
le texte, c'est simple. Non, je ne suis pas certain, puisque mon lien, paraît-il, j'en ai parlé avec un pasteur protestant, mon lien aussi aux protestants, aux catholiques, à la fois aux orthodoxes. Je n'ai pas le texte, je ne vais pas faire communiquer.
Pas de texte.
Je ne vais pas communiquer, mais c'est... J'ignorais totalement quelle version de communique.
J'en profite pour redire un tout petit mot. Tout à l'heure, comme l'a dit justement André, les différents symboles ne contiennent pas tout. Moi, ça fait des années que je me suis dit, tiens, c'est amusant, dans le symbole de Nicée-Constantinople, on ne dit pas que le Christ est mort. Je pense que, parce que les Ariens disaient, c'est qu'un homme, c'est une créature, dire qu'il était mort, c'est un peu ennuyeux, vous voyez. Mais ça manque, parce qu'il est vraiment mort, et que c'est très important pour nous. Tout n'est pas dedans. Et tout à l'heure, je vous ai fait une allusion. Dans les milieux œcuméniques avec les catholiques romains et les protestants, souvent, ils préfèrent le symbole des apôtres parce qu'on ne parle pas de la procession du Saint-Esprit. Donc tout le monde est content. Quand on ne précise pas, tout le monde peut interpréter comme il veut. C'est parfois dangereux.
Donc, vous avez surtout les prêtres qui participaient à la semaine de l'unité des chrétiens, la prière de l'unité des chrétiens. Nous avons depuis des années déjà exigé que le symbole de la foi dit dans ces réunions soit toujours, parce qu'on négocie, que ça soit toujours le symbole de Nicée Constantinople sans filion. Parce que c'est le seul moment où les catholiques et les protestants acceptent de réciter ce symbole de la foi sans filion. C'est très important pour nous. Parce qu'on ne peut pas y aller réciter le symbole des apôtres parce que ça ne dit pas tout. Et moi, par exemple, je suis allé, quand on a reçu le patriarche de Roumanie à Rome, il a rendu visite au pape, puisque le pape est allé en Roumanie. Alors, dans la basilique Saint-Pierre, ils ont récité le symbole de la foi, oui, en romain, sans figure, Saint-Pierre à Rome. Avant le patriarche Théotis, le patriarche Bartholomée de Constantinople est allé aussi en visite. Il a participé avec le pape dans la première partie de la messe. Ils ont récité le symbole de la foi en grec, sans philoque. Donc c'est des gestes quand même très forts à Saint-Pierre même. Tous les deux gestes faits par Jean-Paul II. On n'a pas eu encore l'occasion de voir si le pape Benoît XVI peut faire ça. Mais en tout cas, le pape Jean-Paul II, il l'a fait. Et c'est une chose très importante pour nous. Donc on n'a pas de symbole œcuménique aujourd'hui qui dise quoi ? Là, j'ai lu, par exemple, quelques lignes écrites dans la croix ou par quelqu'un de la croix. Il donne le symbole de la foi sans filioque. Quand il parle de Nicée Constantinople, il met « et du Fils » entre parenthèses. Il ne le met pas et il explique là-bas que ça a été ajouté à un concile de Tolède. Au 6e siècle déjà. Voilà. Des questions?
Je voulais aussi vous dire que tout ce qui est en dehors du symbole de la foi, toute la doctrine, tous les dogmes, etc., ne sont pas compris donc dans le symbole, mais le culte a continué le symbole, et donc le culte est devenu, jusqu'à aujourd'hui et peut-être pour l'éternité, un symbole de la foi aussi.
Petite réaction liturgique. Je continue, vous avez parfaitement raison, mais je continue à me poser la question, parce que vous voyez, j'ai donné quelques exemples de choses qui ne sont pas explicitement dans le symbole, pas textuellement dans le symbole, et qui sont en dehors. Alors, l'icône, triomphe de l'orthodoxie, premier dimanche de carême, tous les textes qui sont, les stichères, les hymnes qui sont chantés là, parfois peut-être un petit peu sous un style byzantin qui, nous, occidentaux, peut-être ça nous dérange un peu, mais enfin, théologiquement, c'est là. Le dimanche suivant, Saint-Cor Palmas, on a aussi les énergies divines, etc. J'ai envie d'ajouter l'office de la transfiguration. Toutes les occurrences du mot lumière sont extrêmement importantes pour la doctrine de la déification. Donc l'office de la transfiguration, de ce point de vue-là, doit, enfin, comme toutes les fêtes bien sûr, mais là spécialement par rapport à la controverse du XIVe siècle, doit être vécue avec une certaine attention particulière. Alors par contre, les deux volontés du Christ, je ne sais pas. Le philétisme, enfin, tout le débat ecclésiologique, nous confessons l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Nous proclamons, quand nous lisons l'Épître aux Galates, qu'en Christ il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Pas de distinction de sexe, de race, de rang social. Par contre, la religion, on partage la même foi. Donc, je paraphrase exprès un slogan de ce monde. Hein. Est-ce que tout est exprimé avec autant de force? Je n'en suis pas certain. Mais il est toujours intéressant de confronter les éléments du symbole de la foi avec le reste de la théologie. Et je n'ai donné que quelques exemples, presque en vrac. Donc, vous avez parfaitement raison. Notre liturgie, oui, proclame la foi, mais en son entier et en son ensemble, et pas seulement avec le symbole de la foi. Le symbole de la foi est entouré de plein d'autres formes. Merci.
Alors, Bernard, dans toute cette forêt, disons, historique, toutes ces guerres autour de la foi, toutes ces... violence autour de la manifestation et de la confession de la vraie foi, nous arrivons aujourd'hui, vous savez que aujourd'hui nous nous sommes condamnés les chrétiens du fait que le témoignage que nous donnons autour de nous à cause de du manque d'unité de la foi est une source de jugement à l'extérieur de l'Église. Qu'est-ce que vous nous diriez aujourd'hui en faisant un lien entre le 4e siècle et le 20e, 21e siècle, là où nous vivons et où on est très regardé par le monde?
Mais vous savez, c'était même d'actualité au 4e siècle. Alors, actuellement, bien sûr, on est un peu ridicule par nos dissensions, c'est vrai, vis-à-vis des non-chrétiens. Mais au 4e siècle, les païens se moquaient des chrétiens. Vous voyez, l'empereur Julien l'apostat, au début, il était très gentil parce qu'il a dit « chouette, ils sont en train de se taper dessus ». Donc il était ravi. Donc c'est un contre-témoignage chrétien. Ça, c'est absolument certain. Et à mon avis, à défaut de refaire l'unité de l'Église, si au moins on arrive à avoir une unité de symbole de foi, ce serait déjà formidable. Si on pouvait au moins se battre pour retrouver tous Nicée et Constantinople d'origine, je pense que ça nous positionnerait mieux par rapport au monde, je trouve.
C'est tout à fait juste, ça n'a pas changé sur ce point, depuis le 4e siècle. Ça n'a pas changé.
Oui, je pense que ce qu'a dit tout à l'heure le père Noël déjà et puis André Lesky ensuite sur le fait que le symbole de la foi est la condition minimum mais est nécessaire mais pas suffisante.
Oui.
Ça je crois que c'est très important parce que pour les contemporains ça c'est fondamental, c'est-à-dire qu'en fait il y a toute une critique sur le dogme en disant vous êtes dogmatique et vous êtes complètement dans une pensée unique, etc. Et en fait je crois que c'est important et André Lesky l'a souligné vraiment plusieurs fois, j'ai vraiment bien entendu cela et je trouve ça fondamental que en fait la foi ne s'est pas, ou le credo, ou la confession de foi ne s'est pas élaborée au fur et à mesure des conciles œcuméniques. Je renvoie au fameux livre de Frédéric Lenoir qui vient de sortir, Quand Jésus est devenu Dieu. En fait, vous voyez, donc c'est bien la pensée contemporaine. Donc il n'y a pas cette élaboration au fur et à mesure. Il y a la foi qui est témoignée et qui se précise, je dirais presque grâce aux hérésies.
Oui,
donc, première chose. Deuxième chose, ce qui a été très vraiment précisé, c'est que le symbole de foi ne dit pas toute la foi de l'Église, mais le minimum, la synthèse, le résumé, et que, en fait, on peut dire que la formulation est minimum et ne dit pas toute la contemplation qu'il y a derrière. Et en fait, après, l'Église est toute une éducation de la foi, je dirais, et la vie liturgique est une éducation de la foi, et que ça, c'est fondamental. Et que donc, je crois que c'est important de dire aux contemporains qu'en fait, on a parlé de barrières, c'est-à-dire qu'au-delà de cette confession de foi, on n'est pas chrétien. Et que si on est au-dedans, on est en train de le devenir, mais qu'en fait, ça doit être complété par la vie liturgique, par la vie chrétienne, par la vie de l'Évangile, etc. Et que donc, moi, je crois que c'est important de dire ici que, en fait, cette formulation, elle est comme une fenêtre ouverte sur la profondeur du mystère, et qu'elle n'est qu'une fenêtre, et qu'il ne faut pas confondre la fenêtre avec la totalité du mystère, qu'on ne peut pas confondre aussi la lune avec le doigt qui la montre. Et que donc, ici, je crois que c'est très important de dire, mais en fait, il ne s'agit pas de résumer sur une confession de foi en disant « voilà, tout est résumé là », mais de dire « c'est une ouverture sur la contemplation et que le mystère dépasse complètement la formulation et que le mystère prôné par l'Église dépasse les dogmes. » Et que là, c'est une invitation à une contemplation que l'homme rationnel ne peut pas, dans laquelle il ne peut pas rentrer immédiatement, mais il peut s'ouvrir grâce à toute la pédagogie de l'Église. Et ça, je crois que c'est un message pour les contemporains.
Dans ce sens-là, le terme symbole est vrai. C'est un signe du reste.
Ce n'est pas le minimum, quand même, c'est l'essentiel. Alors, ben,
les deux.
C'est les deux, oui. C'est les deux.
On peut dire.
On pourrait garder le mot minimum à condition qu'il ne soit pas péjoratif.
Oui, voilà.
Si ce n'est pas abusé, je veux bien justement ajouter quelque chose. André Loski tout à l'heure a dit que le texte du symbole de foi était dit à l'intérieur de l'Église et non pas à l'extérieur. Et en fait, Saint Basile que vous avez cité, Saint Basile fait la distinction entre deux termes, le terme de dogma et le terme de kérigma. Un kérigma, c'est ce que l'Église dit d'elle-même et de sa foi à l'extérieur, sur Internet, à la télé, etc. Et dogma, c'est ce que l'Église dit à l'intérieur. Et ce mot a donné, bien entendu, le mot dogme qui vient d'être rappelé ici. Mais à cette occasion, je voudrais dire que Saint Basile lui-même rapporte le terme dogma au mot doxa. Ce qui veut dire que la conception orthodoxe du dogme, ce n'est pas du tout la conception occidentale qui prévaut, c'est-à-dire une espèce de système dogmatique. Notre conception à nous est tout à fait autre. Hein. C'est-à-dire que le symbole de foi, même tel qu'il est, c'est le dogme de l'Église, dans le sens de la glorification. C'est-à-dire, dogma et doxa, veut dire, et c'est ce que disait Père Philippe à l'instant, c'est pas pour enfermer Dieu bêtement, mais c'est pour le louer. Hein, le symbole de foi, en tant que dogme, eh bien, il est doxa tout fait où, c'est-à-dire célébration de Dieu. Et dans ce sens-là, il est forcément ouvert, apophatique, approximatif aussi, et comme on l'a dit, elle a une fenêtre ouverte sur la contemplation, à la fois l'expression de la contemplation, je pense, et l'ouverture vers la contemplation. Une semestre.
Question. Alors, puisqu'il n'y a plus, je vais donner la parole au Père Yves. Vous voulez bien dire le programme, comment on continue? C'est-à-dire qu'on fait une pause